solution du combustible, mais aussi sur des aspects pour la décontamination du client, on va dans ce cadre-là. Disons que les activités, alors à la base, l'ICSM, c'était un lien avec, ça a été créé pour favoriser l'émanation des réacteurs de cinquième génération. Depuis 2007, j'ai eu des modèles là, mais c'est vrai qu'on est toujours dans une phase de reprise. Donc, on travaille toujours sur ces sujets, mais on travaille aussi dans des sujets hors nucléaire, et actuellement, il y a à peu près 60% sur le nucléaire et 40% hors nucléaire. Voilà. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est que donc, dans le laboratoire dans lequel je travaille, on travaille beaucoup sur des aspects des matériaux poreux pour la décontamination. Et sur le centre, alors on est plutôt un peu en amont sur le développement de matériaux dans cette thématique. Sur le centre, il y a également un laboratoire qui est plus proche des procédés, et donc on a des liens avec eux, et disons que certains matériaux qu'on peut avoir imaginés, bon, le passage vers des traitements en colonne, des traitements continus, ça se fait plutôt sur un laboratoire du centre. Donc moi, je parlerai plutôt des aspects un petit peu recherche plus amont sur le développement des matériaux. Donc, mon exposé va avoir trois parties. Dans la première partie, je vais un peu rapidement présenter ce que j'ai appelé le procédé traditionnel, ce qui s'est fait depuis le début de l'hiver, et un peu les limites qu'il y a par rapport à ça. Donc, ce qui peut être un petit peu pas en avant vers le futur et qui est déjà un petit peu en route, c'est l'aspect de procédé continu en colonne. Et enfin, la dernière partie va être sur une approche un petit peu plus. Propre sur laquelle on travaille, de préparation conditionnelle. Alors, le matériau qui sert à faire la décontamination peut aussi être un matériau de conditionnement des déchets. Donc on voit les voies qui pourraient amener à ça. D'abord, donc, quelques éléments de langage. Hein, on entend par décontamination de dépollution. Donc, les deux termes sont un petit peu équivalents, hein, et notamment hors nucléaire, je pense qu'on les emploie de façon. Interchangeables, hein, ils sont là pour nettoyer, en fait, c'est une action qui consiste à purifier, à nettoyer les eaux. Alors, si c'est une pollution chimique, des PFAS, bactériologiques ou autre, le produit qui a traité peut être aussi, je dirais, dangereux sur des durées très longues, donc ce qui est également le cas des radionucléides dans le nucléaire. Alors, c'est peut-être un petit peu plus long pour les radionucléides, puisque quand on regarde les périodes, il y a certains radionucléides qui ont des périodes très longues, mais disons que quand même l'idée que le traitement il est pour purifier et on a un déchet qui doit être stabilisé sur des périodes trop longues, très longues, et dans les deux aspects, que ce soit des traitements des fluorides radioactifs ou paradioactifs. Alors peut-être quand même la différence qu'il y a entre les deux, et c'est ça qui m'intéresse aussi dans ce que je vais vous raconter, c'est le fait que les radionucléides, ils sont émetteurs de rayonnement. C'est-à-dire qu'ils interagissent sur la matière, les matériaux qui ont pu permettre leur séparation. Et justement, en général, donc, cette interaction elle est plutôt négative pour les matériaux. Sous des radiations, les matériaux ont tendance à moins bien se comporter, et leurs caractéristiques physiques, mécaniques ont tendance à se dégrader. Mais dans ce cas-là, justement, l'idée, ce serait de tirer profit de ce rayonnement, de faire évoluer le matériau vers quelque chose qui pourrait être intéressant pour la stabilisation du déchet, notamment sur le conditionnement. Donc on verra un petit peu comment. Hein. Voilà, donc quelques notions un petit peu de base donc, qui sera question dans l'exposé, donc je l'ai mis un petit peu là, donc on parle évidemment de facteurs de décontamination hein, sur les effluents, donc après c'est le rapport entre l'activité initiale de l'effluent et l'activité finale. Facteur de concentration, c'est aussi quelque chose à prendre en considération, parce qu'au départ, on a des grosses quantités de liquide à traiter, et puis finalement, on va venir les réduire sur un solide qui va avoir un volume beaucoup plus faible. Donc, comme il y en a dans une logique de conditionnement, de stabilisation du déchet, puisqu'il faut le stabiliser sur des périodes très longues, pour des aspects de sites en surface ou sites souterrains, mais enfin, on a besoin de stabiliser le déchet pendant des durées sur des périodes de milliers, de centaines de milliers, voire plus d'années. Donc l'aspect finalement en concentration sur le solide est important. C'est pour ça que ce facteur de concentration est une notion importante. Ensuite, il y a les essais donc, qu'on peut faire au niveau du laboratoire et tout. Donc c'est des essais batch, on utilise un contact avec un liquide et puis un filtre. Donc la capacité qui est la capacité de rétention du solide et puis finalement le solide maximal retenu par le solide, la quantité de radionucléides maximale retenue sur le solide est une mesure importante qui sera question dans l'exposé. Et le coefficient de distribution aussi, qui est le rapport de la radionucléide de la phase solide sur la phase liquide, et qui a un lien finalement avec la sélectivité du matériau absorbant. C'est aussi une notion importante, parce que je ne vais pas trop y revenir sur ce point-là, mais ce qu'il faut voir, c'est que les solutions, les effluents qu'on a traités sont une très forte salinité, hein, donc c'est des milieux où il y a une salinité élevée. Donc la sélectivité du matériau qui sort est assez importante parce qu'il y a en base de vie des ions compétiteurs. Donc il faut tenir compte de cet aspect sélectivité. Donc voilà, alors principe général de traitement de l'effluent, voilà, c'est un lien avec le système de suspension, donc il y a des étapes préalables de filtration ou autre. Et ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, hein, dans les procédés que j'ai qualifiés de traditionnels, c'est de la coprécipitation et puis de la filtration. Donc ça va, on va précipiter, on va récupérer une boue, hein, on va venir stabiliser dans une matrice qui peut être un bitume, un ciment ou un verre, et puis ensuite on stocke, ou on entrepose en partie du stockage in fine, ce matériau de conditionnement pour des durées qui peuvent être très longues. Selon le niveau d'activité, puisqu'on définit différentes catégories d'effluents, de déchets, moyenne activité, faible activité, haute activité, donc selon les catégories du déchet, on va avoir des stockages différents. Et puis, ensuite, l'effluent qui a été traité, rejeté et rejeté dans la norme. Voilà, un petit peu de choses largement utilisées pour le séjour de l'expansion, les fers au cyanure. Hein. Donc, ils font pour le césium, on a l'échange ionique avec du potassium avec le césium sur ce fer au cyanure. Ça conduit à une boue, enfin, on tient un déchet qui est une boue. Et de la même façon, dans le cas du strontium, on va avoir une précipitation avec du sulfate de barium qui conduit également à l'évaluation. Et cette fois par un effet de précipitation. Donc, tous ces aspects nécessitent donc des procédés de filtration. Hein, donc, il y a des filtrations. Alors, il y a différents types de filtrations avec des tailles caractéristiques de rétention des solides différentes en fonction des membranes utilisées. Donc ça peut être à différents niveaux sur les procédés de traitement. On peut avoir ce genre de techniques mises en place. Les procédés membranaires sont, utilisé, mais disons que c'est plutôt des objets de laboratoire, hein, industriellement, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'endroits, peut-être qu'il peut y avoir sur certaines installations ce genre de technique qui est mise en œuvre, mais sur cette revue, ça passe un petit peu à tous les différentes possibilités de techniques de traitement de solides qui sont évoquées, mais c'est surtout des études de laboratoire, c'est plutôt des choses en développement, donc c'est peut-être pour le futur, ce sera des choses à prendre en considération. Voilà ici donc, le schéma, donc, le procédé de traitement de la station de Marcoul. Hein, donc on voit qu'on a à différents endroits ces aspects de précipitation, ensuite filtration, tout ça pour arriver à récupérer donc, le solide et ensuite enrobé dans un bitume, donc à une température de 160 degrés, avec cette technique d'extrusion, puis mis en cuve et puis en repos. Vous avez ici le filtre Fibros qui est utilisé pour faire bien ce procédé. Hein. C'est un petit rotatif de la zone, donc qui permet la médicition d'un démon. Hein. Ici, l'extrudeuse, donc Werner, qui permet de venir arroser à chaud donc, les bitumes dans les bitumes, et les ouvrir ce bitume dans les jus. Alors, et ensuite, les puits en question, ils sont emballés pour le transport. Plusieurs puits sont rajoutés dans ces containers. Ensuite, ils vont vers la cible de stockage. Le bitume est quand même un matériau de conditionnement qui présente certains problèmes, hein, notamment des aspects radioïdes. Hein, le bitume a des liaisons carbone-hydrogène, donc les effets du rayonnement sur ce genre de produit conduit à l'aération d'hydrogène. Donc on a un gonflement de la matrice de conditionnement, et donc il y a même certains problèmes par rapport à ça, les bitumes qui ont été faits maintenant depuis une quarantaine d'années, donc on a des problèmes de gonflement de ces bitumes. Donc il y a une certaine... Alors ça risque d'être... il y a des projets, il y a des différents projets autour de ça, mais il y a certaines bitumes qui risquent d'être repris ou mettre dans des matrices plus sûres. Et donc par rapport à ça, le ciment, il paraît être une solution plus intéressante, facile à mettre en œuvre. Donc c'est une matière de conditionnement qui est actuellement mis en avant pour remplacer le type de bitume. Alors le problème, c'est surtout par rapport au ciment, c'est une question de réaction avec les déchets qui peuvent plus ou moins rendre difficile la cimentation. Là, je viens juste faire voir que c'est un petit peu partout pareil sur l'usine de La Hague, donc qui est la principale usine en France de traitement du combustible. On utilise exactement le même genre de procédé, de précipitation, donc c'est assez généralisé ce genre de procédé. Alors un autre procédé donc, sur lequel je vais vous dire un mot, c'est un lien avec l'accident de Fukushima. Hein. Donc il y a eu nécessité de refroidir les réacteurs avec des eaux de mer, des grandes quantités. Et donc, dans un délai assez court, il y a un procédé qui a été développé, qui a été fait en collaboration entre Orano et Veolia. Donc, Veolia a fait un petit peu, le génie chimique, le système qu'on voit ici, c'est le système qu'ils utilisent pour le traitement d'épuration classique, d'eau urbaine, des choses comme ça. Donc, ça a été repris et adapté avec... La mise en place donc faire des possibilités de classer un diffère aussi annuellement. Et au début les premiers mois après l'accident, il y a 90 mètres cubes d'eau qui a été traité en quelques mois avec ce procédé. Quoi que par la suite, c'est un autre procédé américain qui a été mis en place. Mais disons que ça a été dans une première phase de ce genre de technique qui a été utilisée. Bon, voilà pour ce qui concerne un petit peu ces procédés dits traditionnels. Donc, les limitations de ces procédés, c'est des productions de goût importantes. Ce qui prend le pas par rapport à ces techniques, c'est les procédés surface solide, les procédés de traitement en colonne, qui sont des choses qui, depuis dizaines ou quinzaines d'années, sont très étudiées et qui commencent à être mises en place sur des installations. Donc ça pose d'autres questions. Hein. Il y a les avantages d'un traitement continu, une réduction de la qualité des déchets. Un des points quand même qui n'est pas négligeable et qui d'ailleurs rejoint un peu les problématiques des céramistes, du traitement français de la céramique, par exemple, c'est les questions de mise en forme. Et donc là, les techniques, les technologies de mise en forme, alors, souvent ça peut être aussi basse température, on va voir pourquoi. Peuvent être assez intéressantes pour faire mettre ce type de procédé, rendre ce type de procédé opérationnel. Donc, d'un point de vue des mécanismes, ce qui se passe pour ce genre de matériaux, on a des phénomènes de précipitation, un peu comme dans le cas du chauffage de barrière, mais ça, on est à la surface d'un matériau, je crois. Beaucoup de processus d'absorption physique et chimique, et également du chaleurissement. C'est ce genre de mécanisme qui permet la rétention des perturbateurs. Alors, le traitement de colonne, c'est une approche multi-échelle et donc, dans laquelle la porosité va jouer un grand rôle. Donc, le premier étage, c'est la fonction active, donc qui peut être cristalline ou pas d'ailleurs, donc, qui va donner la sélectivité, la capacité de rétention. À l'échelle au-dessus, c'est le support poreux et sa mise en forme. Donc, la granulométrie, le type de porosité qu'il comporte. Ensuite, les propriétés d'extraction, la colonne est en train de percer, donc il faut évaluer un peu ces choses-là pour avoir un procédé opérant. Puis le génie chimique et, pour finir, la transformation éventuelle. Alors, ça, c'est dans le cas vraiment le plus favorable. Enfin, dans tous les cas, il faut conditionner le déchet, mais on peut aussi le transformer directement un matériau de conditionnement. Donc, quelques idées sur les porosités, les définitions un petit peu des porosités. À l'échelle, plus basse, on a différents types de porosités. Donc, la définition de l'UPAC sur ces points-là, la microporosité, c'est inférieur à 2 nanomètres, les porosités entre 2 et 50, la macroporosité au-delà de 50 nanomètres. La morphologie des pores également, on peut avoir des pores fermés, des pores ouverts. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en considération. Et puis après, au-delà, c'est la porosité interveine à la colonne, qui est aussi un autre élément pour la perforation du liquide dans la colonne. Donc, en termes d'éléments de langage, si je puis dire, on va faire un petit peu attention à ce qu'on entend par porosité. Donc la macroporosité, la définition de l'IPAC, c'est supérieur à 50 nanomètres. Mais dans les cas, par exemple, de la porosité intertranguulaire, certaines parlent aussi de macroporosité. Donc de la même façon que la microporosité, ça peut être aussi lié à la porosité dans les champions micrométriques, des choses comme ça. Donc il faut faire un petit peu attention à la microporosité. Donc un exemple de support solide qu'on utilise beaucoup au laboratoire, ce sont les silices des eaux poreuses organisées. Donc ces silices, ça a été mis au jour dans les années 90. Donc ce sont des silices qui sont tenus par voie Sol-gel. On va mettre un précurseur en matière de réagir, un précurseur de silicium avec un surfactant, un processus sol-gel va opérer pour venir donner l'effet d'amplitude dans ces matériaux qui va venir donner des pores cylindriques et des organisations finalement de ces silices. Et après calcination, donc élimination du surfactant, on obtient un matériau de silice, mésoporose, avec ça, on va avoir des pores de quelques nanomètres. Et qui ont le bon goût d'être organisé pour les études. Alors, ce n'est pas la seule finalité, mais pour les études laboratoires, c'est quand même assez intéressant, puisqu'on peut voir, on peut utiliser les techniques de diffusion, ionique ou autre, pour venir voir l'évolution de ces structures. Deuxième avantage de ces silices, c'est qu'elles peuvent être aussi facilement fonctionnalisées, donc on peut venir traiter les ligands organiques, différentes choses à la surface de ces matériaux par des bois chimiques assez classiques de chimie, par exemple. On va le voir par la suite. Donc, un petit peu quelques caractéristiques globales de ces matériaux. Donc, les surfaces spécifiques qui peuvent aller jusqu'à 1 m² par gramme. Des tailles de pores, donc pour les SBA15, qui sont une certaine famille de silice, en fait, avec le P123 comme surfactant, on peut aller de 4 à 10 nanomètres pour la taille des pores. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une signature par diffusion des rayons X qui est allée sur les images nettes, justement, ces canons de port, là, voilà, c'est ici, le réseau hexagonal, la pose.
Donc, contre supporteront les verres du corps aussi, les utiliser. Alors là, par contre, on est sur un matériau qui n'a pas d'organisation. Hein. Donc, les verres du corps, en fait, les verres poreux, plus globalement, ce sont des verres qui sont obtenus par démixion d'une seconde phase de preuve. Donc, on fait un verre, on fait démixer une seconde phase, et la seconde phase étant plus la ville, on peut la dissoudre et obtenir ce réseau de maisons positives. Alors, ce genre de matériaux a beaucoup de point de vue des caractéristiques géométriques. On peut avoir des surfaces relativement variables, des détails de pores aussi qui peuvent varier beaucoup plus que sur les silices type SPA15. Voilà. Ensuite, en termes de mise en forme, ben, on a déjà des billes, donc pour remplir des colonnes, ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors, troisième voie qu'on a utilisée au laboratoire, c'est les fours des émulsions. Donc on va mélanger un précurseur de silice avec une phase huile, pour la vie du cycloexane. Et donc, par émulsion, on va pouvoir venir faire un monolithe. Après l'élimination de la phase huile, on obtient un matériau très poreux. Donc, avec différents niveaux de porosité, les oporosités, et également une macroporosité qui peut aller jusqu'à plusieurs microns. Donc ça, c'est assez intéressant pour la percolation du liquide dans la colonne. Maintenant, la fonctionnalisation, donc là, par exemple, pour le césium, les fonctionnalisations utilisées, c'est exactement les mêmes composés qui sont utilisés dans les procédés traditionnels, sont des ferrocyanures. La difficulté, c'est de venir greffer ces ferrocyanures sur les silices. Donc, on a utilisé des vergicores, des silices, des types SPA15, tout ça. Donc, dans une première phase, on vient greffer ce genre de molécules à la surface de la silice. Hein. Donc, vous voyez, avec le silicium ici, les trois pattes sur le silicium, on peut venir fonctionnaliser la surface de la silice du matériau. Et donc, cette fonction organique va permettre de sorber, de récupérer un ion métallique. Alors, ça peut être du cobalt, du cuivre, hein, puisque les ferrocyanures, on peut les faire à base de différents éléments. Et ensuite, par imprégnation, on vient faire croître une nanoparticule de ferrocyanure dans ces matériaux. Et la dernière phase, ces matériaux sont utilisés pour sorber le césium. Et donc, ferrocyanure, qui est un nano de Proust, la précoce des nanoparticules, c'est assez efficace pour venir retenir le césium. Donc, vous avez ici la comparaison finalement de ce genre de technique, on a greffé les silices par rapport à l'utilisation d'un analogue de bourre de plus massif. Et vous voyez qu'on a quand même une. Alors, on a une sorption plus forte, il y a un effet nanon autour de ça, hein, puisque l'aspect diffusion du césium dans la nanoparticule est beaucoup plus rapide, donc très facilement, on va pouvoir mettre un relatif, une quantité de césium plus importante par rapport à la quantité de ferrocyanure. Dans le massif, on a un aspect de diffusion intragranulaire à prendre en considération et on arrive à des capacités de sorption plus faibles. Ensuite, je vous ai parlé donc, tout à l'heure des monolithes faits par induction. Plus de les faire, il faut aussi les fonctionnaliser. On a travaillé sur ça également avec des analogues de Bleuot de Proust. Et il y a plusieurs voies de fonctionnalisation qui ont été étudiées. Donc, une première voie dans laquelle on utilise une suspension colloïdale d'analogue de Bleuot de Proust qui est mélangée avec le curseur de silice hein, pour obtenir ces monolithes. Donc, la deuxième voie, elle a consisté à utiliser donc des centres de vibration, la flare propre, c'est une particule, la même chose. Et une troisième voie, consiste à faire des mesures de piquets, donc les trois, on peut lui obtenir des mondiques qui a des caractéristiques de la simple pour l'application visible. Alors, sur le strontium, donc, en train de radionucléine, les silicotitanates sont un matériau assez intéressant, donc on a travaillé là-dessus dans les laboratoires, mais ils se synthétisent par des voies hydrothermales, hein, donc à relativement basse température, à 510 degrés. Donc la citinakite est dans les silicotitanates, est une phase qui est assez sélective pour le strontium. Et donc cette phase, vous avez ici la représentation. Alors, dans ce type de matériau, en fait, le strontium, c'est le sodium donc de la structure du sodium pour venir récupérer le strontium, donc c'est le champ ionique. Et en fait, il y a deux sites du sodium dans la structure. Alors, celui qui est le plus. Qui permet le plus ce phénomène de sorption, c'est les tunnels. Donc, dans les tunnels de la structure, on a du sodium, mais c'est surtout ceux-là qui sont échangés pour récupérer le strontium. Mais il y a également des sodiums structurels qui peuvent aussi être mis en œuvre pour venir récupérer le strontium. Donc, le problème de ça, c'est toujours la mise en forme. Alors, ce qui a été fait par le passé, il y a 3-4 ans, dans une thèse, d'ailleurs, c'était Tony Krashnek qui a eu la meilleure thèse il y a quelques années. C'était de faire des transformations pseudomorphiques de TuO2 en citinakite par ces procédés hydrothermales. Donc, ça a conduit à des résultats intéressants, mais quand même, c'est assez joli, mais les monolithes obtenus, c'est un petit peu fragile. Alors, bien, aujourd'hui, il y a des voies nouvelles. Oumaïma vous fera un exposé tout à l'heure sur ces nouvelles voies, et notamment, on travaille un petit peu dans le désormais, en collaboration avec Cathy Lissal pour des fruitages hydrothermales basse température pour mettre en place ces matériaux. Voilà, maintenant, une dernière partie de mon exposé, donc c'est la séparation conditionnement. Alors, si vous voyez quelle idée derrière ce concept. L'idée, c'est finalement d'utiliser, comme on l'a vu, sorti en radionucléine, mais une fois qu'il est capturé, de l'encapsuler dans le matériau pour en faire un matériau de conditionnement. Hein, puisqu'on l'a vu au début, hein, les procédés de décontamination, ça suppose d'avoir une phase de séparation et une phase de conditionnement. Là, le même matériau ferait les deux. Et donc, c'est un petit peu nouvelle pour pouvoir faire des structures relativement fragiles pour permettre cet effet de maturation. Alors il y a plusieurs façons de venir effondrer la structure. Donc, ça peut être une contrainte thermique, une contrainte radiative, donc, c'est ce dont je vais vous parler là, par la suite. Mais ça peut être aussi le bouchage des pores par exemple, par des poissons gel. Donc, c'est des choses aussi quand même auxquelles on réfléchit. Donc, si on regarde ça par rapport à ce qui a pu se faire un peu dans la même idée, donc il y a des travaux antérieurs dans les années 80 de Simon qui utilisait des verdicores, il donnait donc des verres de poreux, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il remplissait la porosité de ces verres par des solutions de radioactives. Et il faisait par un traitement relativement basse température, il venait fermer la structure et pour obtenir un matériau de conditionnement. Bon, cette voie est restée à l'échelle du laboratoire. Alors, nous, on la revisite un peu à travers quand même quelques idées de plus, puisqu'on ne sait pas simplement du remplissage des ports qu'on veut faire, c'est venir mettre des fonctions qui vont venir faire la séparation des radionucléides. Et puis également, ben, les voies pour de fermeture de la structure, l'idée de gradation qui est assez nouvelle, si je puis dire. Voilà. Alors, premier exemple, là c'est un effet thermique. Hein. Et ça me permet de parler de deux matériaux dont qui ont quand même actuellement, je ne sais pas s'il faut dire le vent en poupe, mais au moins le premier, pour le conditionnement des déchets et des contaminations. Et puis par ailleurs, c'est aussi, on va voir que ça, le chauffage, on va obtenir un maïs. Donc c'est, le premier, c'est les géopolymères. Alors les deux matériaux-là sont des aluminosilicates. Hein. Alors selon comment on traite ces précurseurs, on peut obtenir un géopolymère. Hein, donc là, c'est plutôt température ambiante, dans des milieux très basiques. On va obtenir ce genre de matériaux-là qui va avoir une mésoporosité assez importante, qui peut être utilisée pour remplir. Alors ces matériaux peuvent être aussi des supports. Ce qui est fait également, c'est de venir fonctionnaliser les surfaces de ces matériaux avec des analogues de Prusse ou de l'acétinakite, hein, c'est des choses qu'on travaille là-dessus également, pour voir un petit peu dans quelle mesure ça peut être opérationnel. Ensuite, mais par contre, ce sont des matériaux amorphes. L'autre classe de matériaux, ce sont les zéolithes, hein, donc là, les traitements hydrothermales permettent d'obtenir des structures avec des porosités importantes et donc qui sont assez efficaces pour venir récupérer du strontium et du césium. Et donc ce qui a été fait là, récemment dans le laboratoire, c'est de voir finalement directement les zéolithes ou les géopolymères ou même des composites des deux, les transformer thermiquement pour aller vers une matrice de conditionnement. Donc, c'est dans cette publication qui va nous sortir. Donc, le point faible un petit peu de cette approche-là, c'est la question de la volatilité. Hein, en fait, le césium, alors tout à l'heure, il y a des questions de diode, c'est un peu le même problème. Tout ça, ce sont des éléments qui ont. Tous les composés, le césium, le diode, ils sont très volatiles. Donc il faut vraiment avoir des températures de traitement très basses, des procédés qui permettent de faire cette transformation à la basse température. Et donc dans le cas là, de ce qui a été étudié par Vanessa, les températures sont quand même un petit peu élevées et vraisemblablement au niveau des pertes d'incision, ce n'est pas négligeable. Donc d'où l'idée de la dernière façon de faire, qui est d'utiliser l'irradiation. Alors bon, ça c'est quand même un peu, je dirais, une idée qui est à devenir, mais bon, c'est pas encore opérationnel, mais par contre, il y a quand même un côté un peu proche de concept de la fermeture de la porosité par ces effets-là. Donc, ce que je vais essayer de vous expliquer là dans les minutes qui nous restent. Donc voilà, on a développé ça dans le cadre d'un projet ANR. Et donc, cette fois, c'est du plutonium qu'on a mis dans les structures. Alors, pourquoi du plutonium? Déjà, c'est un radionucléide qu'on peut retrouver dans des effluents, et qu'il faut notamment dans tout ce qui peut être, par exemple, les solutions qu'on peut récupérer sur des chantiers de démantèlement, des choses comme ça, d'installation, on a des petits pour récupérer des solutions qui vont être peu concentré en plutonium, mais s'il y avait des aspects de traitement spécifiques de ce genre d'effluents, ça pourrait quand même avoir un intérêt. Par contre, le plutonium, son intérêt par rapport à l'effondrement de la structure, bah, c'est qu'il y avait deux types finalement de rayonnement. Il y a une particule alpha, donc il fait beaucoup de dommages électroniques. Hein, donc on va avoir ces interactions avec la particule et le cortège électronique des cibles qu'il rencontre. Et puis il y a également le noyau de recul, qui lui a une très faible énergie, une centaine de kiloélectronvolts, mais qui lui fait beaucoup de dommages balistiques, c'est-à-dire des déplacements atomiques. Et donc ce déplacement atomique, c'est quand même quelque chose qui est assez efficace pour étendre les structures. C'est aussi une des raisons du choix de cette manipulation. Donc comment ça nous est venu à l'idée, cette histoire de venir essayer de récupérer un radionucléide? Ben, on est parti il y a une dizaine d'années sur l'idée d'étudier un peu ces structures poreuses sous irradiation. Et là, on utilisait plutôt des vaisseaux d'ions, hein, des irradiations externes. Et l'idée qu'il y avait derrière, c'est que, ben, compte tenu des grandes surfaces spécifiques de ces matériaux, hein, au niveau des pores et tout, c'est des sites qui sont favorables pour recombiner des défauts. Donc, c'est une idée qui est dans le milieu de des matériaux de comportement, des matériaux de d'immatriculation. L'idée d'avoir beaucoup d'interfaces, c'est favorable, c'est une idée qui court depuis 10-20 ans, 20-30 ans, d'ailleurs, favorable pour recombiner des défauts. Donc c'est un peu ce qu'on pouvait voir. Il y a d'ailleurs une étude sur les mousses métalliques où cet effet est démontré. Les mousses exposent dans une certaine taille de pores dans ces mousses, on a un renforcement des propriétés, une meilleure tenue. Donc c'est ce qu'on voulait évaluer. Et nous, ce qu'on a vu, c'est que dans tous les cas des radiations de l'amphifère avec des ions or et autres, on a toujours eu un effondrement de la structure. Alors, vous avez cet effondrement, vous le voyez ici. Donc, ce sont des courbes de réflectivité. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette technique. Donc, il y a plus, donc c'est des films minces. Donc là, vous avez des couches de silice mésoporeuse qu'on a déposées sur des bois de silicium. Il y a une dizaine de couches. Et donc, ce qu'on a comme information par la réflectivité, c'est ces pics ici sont des pics de Bragg, un petit peu comme ce qu'on obtient à la diffraction, donc ils nous donnent une idée de la distance de la cristalline des pores. Et puis également ces fracs, les fracs de Kissig, qui donnent une idée de l'épaisseur de la couche. Donc à mesure qu'on augmente l'affluence, c'est-à-dire le nombre de projectiles qu'on envoie sur ce échantillon, on voit que ces pics commencent à disparaître. Et donc à très forte affluence, on n'en voit plus. Et ça, c'est caractéristique, en fait, d'abord de la perte d'organisation dans la structure, et puis également de la densification de la structure. Ce qui est passé ici, c'est les épaisseurs, on peut définir, on peut tirer les épaisseurs des couches. Donc c'est l'évolution, la diminution de l'épaisseur en fonction de la fluence. On voit que ça sature, donc une valeur qui correspond à peu près à la densité de la silice, de 2,2. Donc on arrive à complètement effondré ces structures, un peu à notre grande surprise. Et donc par rapport à ça, on n'a pas vraiment vu de domaine d'ions, puisqu'on a essayé différents types d'ions, différents dépôts d'énergie dans les structures. Dans tous les cas, on avait un effondrement. D'où cette idée de venir mettre du plutonium et voir si l'auto-irradiation, cette fois, et non pas l'irradiation externe, avait le même effet. Alors l'explication de ces effondrements, on a fait un peu de dynamique moléculaire pour voir un petit peu les raisons. Donc, par dynamique moléculaire, on arrive également très bien à effondrer ces structures et on reproduit dans une certaine mesure ce qu'on a pu voir expérimentalement. Vous voyez, des radiations, c'est la courbe 2 et en orange, là, c'est la dynamique moléculaire. Quelque chose d'assez comparable. Et donc, ça, en termes de mécanisme, ça nous donne quand même un petit peu des informations, puisque dans la dynamique moléculaire, c'est essentiellement des processus balistiques. On peut modéliser. Donc l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que la mobilité des atomes à travers ces effets d'irradiation conduit à une espèce de frittage basse température assisté par l'irradiation qui vient effondrer la structure. Puisque ce qu'on voit, c'est quand même que l'effondrement est progressif, c'est pas brutal. Donc c'est quand même un processus qui est pas totalement désorganisé, mais qui est plutôt progressif. Donc pour venir mettre le plutonium, bon, on a fonctionnalisé ça. Bon, il y a eu une étude sur les ligands, les phosphonates, c'était des bons candidats. Hein. Donc vous avez ici les ligands qui ont été utilisés à phosphos. Bon, lorsqu'on met ces ligands à la surface de silice, on perd un petit peu de surface, on modifie un peu la taille des pores, on peut calculer le nombre de ligands par centimètre par nanomètre carré. Donc ici, c'est les courbes des isothermes d'absorption. On les a fait sur des radions médictorium qui sont des bosses qui sont du plutonium, mais ce sont tous des actinides. Et on a juste mis quelques points qui ont été faits avec du plutonium, on voit qu'on retrouve un petit peu les mêmes ordres de grandeur de sorption sur les gènes. Alors là, juste pour peut-être, c'est pas clair pour tout le monde, mais il y a deux types d'isotopes qui ont été utilisés, le 239 et le 238. Alors pourquoi ça? Parce qu'ils ont des périodes très variables. Donc, le 238, 18 ans, donc il va faire beaucoup de dommages dans la structure. Donc ça va être quelque chose de très endommageable. Alors que le 239, avec 4000 ans, même sur des durées assez longues, ça ne fait pas un dommage très fort. Ce qui veut dire que le 239, on va l'utiliser un petit peu comme référence, et le 238 comme sur l'échantillon qu'on verra évoluer. Bon, on a ici donc les quantités, autour de 10% en masse, on a pu mettre de ces deux éléments. Et bon, là, les petits calculs montrent que sur à peu près 2 ligands phosphonates pour récupérer un atome de plutonium. Autre élément quand même intéressant, c'est que la silice de Gierde, sans réforme, on sort de rien. C'est vraiment quand même, ça dit que le plutonium est bien dans les pores. Hein, donc, voilà. Et donc, on a laissé évoluer ces structures, hein, les intégrations. Donc là, on est à 41 mois pour l'échantillon, en fait, pour les deux échantillons. Et au fil du temps, on a fait des mesures au SACS, hein, pour voir un petit peu comment évoluer finalement l'organisation de la structure. Et ce qu'on voit, c'est que sur l'échantillon P1239, qui a très peu de dommages, eh bien, on a pas vraiment de déplacement de pic, hein, ça change très peu. Alors que le PU238, on voit ce déplacement des pics, vous voyez sur la droite, qui est caractéristique d'une densification, d'un rapprochement du réseau de poids. Donc à partir de ça, donc ça c'est des mesures qui sont faites à Soleil, hein, puisque c'est une ligne, il y a la ligne Mars à Soleil qui permet de faire des mesures sur des échantillons radioactifs. Donc on doit en tirer une variation volumique, et donc vous voyez qu'on est à 14% au bout de 40 mois. Hein. Donc cet effet qu'on avait eu sur les irradiations externes, on le retrouve bien avec l'auto-irradiation, alors que l'échantillon P39, c'est quasiment pas varié de volume. Donc si on compare ça avec les irradiations externes, donc là j'ai tracé une énergie donc, qui a un lien avec le dommage d'irradiation, donc on peut la calculer sur les échantillons auto-irradiés sur ceux d'irradiés externes, on voit qu'on a une certaine correspondance, voire que ça va un petit peu plus vite sur l'échantillon auto-irradié. Ça reste à expliquer, la raison de cette évolution. On est à peu près au tiers, hein, en 40 mois, donc ça va un peu moins vite de ce qu'on avait espéré au début. On peut essayer de mettre un peu plus de coutonnant dans la structure pour que ça soit plus efficace. Voilà, donc je pensais vous parler de verre, mais ça va peut-être être juste. Donc je vais aller directement à la conclusion. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que les procédés colonnes devraient prendre une place de plus en plus importante dans les traitements de fluents dans les années à venir. Les choses qui restent à régler par rapport à ça, bien souvent, alors, même s'il y a des avancées, mais c'est des questions de mise en forme, qui sont quand même mise en forme en basse température, hein, puisque souvent les matériaux qu'on utilise sont fonctionnalisés, donc il y a quand même il faut garder ses fonctionnalités, donc ils supportent des températures relativement basses. Donc l'approche séparation conditionnement, pour dire de ça, de cette approche, est une voie quand même très intéressante, mais qui est quand même au stade de la recherche en moins. Et donc l'encapsulation, alors dans cette voie, l'aspect encapsulation par auto-irradiation, paraît une voie intéressante, et l'idée des perspectives par rapport à ça, c'est de chercher des structures qui pourraient être plus favorables, qui pourraient s'effondrer plus facilement pour un peu augmenter les cinétiques, pour aller vers l'utilisation de ça dans le procédé. Alors parmi les, j'ai mis ici quelques structures donc, que vous devez étudier dans le futur proche. Donc on voit que la taille des murs et la taille des bords sont des choses qui sont variables, et finalement, il y a peut-être un peu à poser de ce côté-là pour voir si l'effondrement plus rapide ne va pas être obtenu. Une autre voie, c'est les éolites aussi, on envisage de mettre des éolites dans le futur. Hein. Et puis également de modifier un petit peu la chimie des silices, venir rajouter des éléments fondants comme le bore, l'aluminium, ça peut se substituer, on peut obtenir des structures du même genre avec ces éléments à l'intérieur qui pourraient être plus favorables pour cet effondrement. Voilà, j'en ai terminé, donc je remercie un peu toutes les personnes qui ont participé à ces travaux et puis vous pour votre attention.
Intéressant et complet, hein, il y a beaucoup de choses à visiter. Donc, j'ai une question par rapport aux différents minéraux que vous avez testés pour le piégeage de ces urnes de suspension. Hein. Donc, vous avez listé les géopolymères, vous avez listé la zéolite, différentes sortes de zéolite. Et avez-vous testé d'autres types de minéraux, des phyllosilicates, des, je sais pas, d'autres types de structures qui présentent également des types visibles dans lesquels on peut aller cacher des choses?
Oui, non, c'est sûr qu'il y a certains minéraux qui pourraient être intéressants.
Bon, après, alors, l'approche, là, à la semaine dont je vous parlais, où on regarde, on va regarder les structures, il va y avoir une approche modélisation en parallèle, enfin, ici, au projet AMR, mais s'il ne passe pas, on va reprendre. Et donc, l'idée, ce serait justement de regarder un petit peu par différentes techniques de modélisation, s'il n'y a pas des structures qui pourraient être plus favorables à un effondrement. Et donc, alors déjà une sorption dans un premier temps, donc ça c'est le premier truc, et puis également après un effondrement, et donc ces facteurs-là, ils seront pris en compte à travers des modélisations pour essayer d'aller vers quelque chose qui serait plus favorable par rapport à tout ça. Donc, mais c'est vrai que le choix est vaste et effectivement, oui, il y a quand même aussi de l'individu autour de tout ça, il y a beaucoup de choses qui ont été essayées. Hein. Celles qui émergent sont souvent quand même des structures qui ont montré un certain potentiel par rapport à la
Merci. Y a-t-il d'autres questions dans la salle?
Je vais t'en. Oui, dans les différents procédés, là, il y en a un certain nombre. Vous avez éliminé notamment, c'était l'ultrafiltration. De mon souvenir, je crois que les Anglais, assez la fibre, avaient un procédé d'ultrafiltration. Ça marche à peu près. Voilà. C'est quelque chose qu'on avait regardé, notamment pour la station de traitement de Cadarache. Mm-hmm. Oui, qu'on a abandonné pour différentes raisons. Donc, ça c'est à regarder. L'autre point, là, donc vous avez essayé avec du plutonium 238, un radionucléide qui nous casse un peu les pieds, c'est aussi l'américium 241. Est-ce que ça serait un bon candidat aussi pour l'auto-irradiation ?
Oui, tout à fait. Alors, pourquoi le 238, comme je vous l'ai dit, c'est un 2. Alors, l'idéal, ce serait le curium 244, parce qu'il a une période encore plus courte, de 18 ans. Là, on aurait des dégâts beaucoup plus. Bon, le curium, ça ne court pas les rues, donc c'est un peu plus difficile à se procurer. Donc c'est pour ça qu'on prend le plutonium 238. Et c'est pour faire une preuve du concept. Après, tous les actinides, ce serait dans l'idée de pouvoir récupérer tous les actinides. Ben oui. Et ces ligands phosphonates, ils ont quand même été pas mal étudiés pour la sorption. Donc des actinides, ça marche pour les 3 et pour les 4. Donc l'américium, il ferait partie du lot. Après, il faudrait voir comment mettre ça en œuvre, mais c'est un peu pour peut-être pour certaines niches de traitement, des flux en particulier, où ce genre de procédé qui pourrait être relativement compact, je pense, pourrait être intéressant. Et notamment, je pense à des chantiers de démantèlement, on dirait des liquides, des petites choses. Je ne pense pas que ça va être le procédé qui va
aider la stèle, voilà.
Mais par contre, sur des niches, si je puis dire, ça pourrait être intéressant, et d'autant qu'en fonction du ligand, on peut récupérer du radionucléide. Je ne l'ai pas dit là, même le bêta-gamma, on a irradié avec des électrons, les
structures vont
s'effondrer de la même façon. Donc, même sur des effluents bêta, l'efficacité, en tout cas, est validée par des irradiations externes.
Est-ce que vous avez aussi regardé les problèmes de lixiviation après conditionnement?
Pour l'instant, pas trop, mais le projet là, qu'on propose, il y a une branche ici pour voir un peu le relâchement de toutes choses-là. Parce qu'effectivement, c'est quand même le problème.
Oui.
Si c'est un matériau qui est de conditionnement, il faut qu'il soit suffisamment fort par ça.
Merci.
D'accord, merci donc, pour cet exposé avec énormément de procédés. Moi, j'avais deux questions un peu naïves. La première, c'est que comme il y a une multitude de procédés, ensuite j'imagine qu'on peut les mettre vraiment en pratique à grande échelle, ça va nécessiter des installations nucléarisées, complexes, et donc les manipulations vont être plus ou moins faciles à effectuer. Est-ce que dès le départ, on essaye d'intégrer cet aspect-là pour le choix finalement futur de ces procédés?
Oui, techno. En fait, dans les procédés, le premier, si je puis dire, le client du CEA par rapport à ça, c'est Warning. Et en fait, ils financent à la base les choses. Donc, en fait, ils sont très vigilants par rapport à ça. Et donc, quand il y a quelque chose qui est développé sur tel ou tel matériau pour procéder associé, il y a le passage d'une échelle au niveau de la Hague pour voir un petit peu dans quelle mesure une échelle industrielle, alors il différentes niveaux d'échelle, mais c'est très aligné avec eux, et donc il y a des choses qui sont rejetées, effectivement, par rapport à des problèmes comme ça.
Et ma deuxième question, qui est un peu plus générale, où en est-on au niveau des démantèlements actuellement?
Alors là, je dehors.
On peut dire du. Ça dépend de quoi.
Vous serez plus pertinent que moi.
Oui, donc sur les démantèlements, bon, il y a deux types. Enfin, quand on parle démantèlement, vous avez les démantèlements des usines, qui étaient des usines, je dirais, des années 60, quoi, 50-60. Celles-là, effectivement, c'est en cours, en particulier à Marcoule. Et ce sont des gros chantiers, parce qu'il faut reprendre des anciens déchets. Ça vient montrer effectivement qu'il y avait certains déchets, notamment les bitumes, qui ont vécu. Voilà. Donc il faut reprendre, reconditionner, remettre, etc. Donc c'est des chantiers qui vont durer encore plusieurs décennies sur Marcoule, hein, faut pas se le cacher. Donc ça, c'est toute une partie. Et puis quand on parle démantèlement, souvent on met ça en face des centrales. Alors ça, les centrales, c'est un autre débat, parce qu'on n'est pas du tout dans la même catégorie d'usines. Vous avez actuellement une centrale qui se déconstruit, qui est un modèle à peu près, un petit modèle de nos réacteurs qui est sur le site de choses, et qui se passe, je dirais, sans difficulté majeure. Parce qu'une centrale qui n'a pas eu, je dirais, d'accident, hein, comme Fukushima, effectivement, ou Tchernobyl, vous avez, en gros, une cuve qui est un peu irradiée. Une fois que vous avez enlevé le combustible, que vous l'avez renvoyé à La Hague, vous n'avez quasiment plus de radioactivité, si ce n'est la radioactivité active des structures. C'est pas très difficile et pas très cher, entre guillemets, d'aller démontrer ça. On va y avoir effectivement aussi sur Fessenheim, on peut regretter ou pas l'arrêt de Fessenheim. Bon, dans les avantages qu'on peut citer, c'est le fait d'avoir aussi un retour d'expérience du démantèlement d'un réacteur qui est quand même très proche et qui est identique à une partie de notre parc. Donc voilà, le démantèlement, il faut effectivement regarder ces deux aspects. Les anciennes installations, qui effectivement sont un vrai sujet, long, avec beaucoup de R&D derrière, parce qu'il faut développer des procédés, faut développer de la robotique, faut développer des moyens de contrôle. Enfin, voilà, donc ça, c'est toute une partie. Et puis, une partie qui est plutôt sur les centrales, où alors là, on est devant quelque chose qui est beaucoup plus, je dirais, plus simple, entre guillemets, à faire.
Merci. Bien.
Bravo.
Xavier.
Il a le droit à son.
Ah oui.
C'est facile à collecter.